Lettre 68. Rika à Usbek à. J'allais l'autre jour dîner chez un homme de robe qui m'en avait prié plusieurs fois. Après avoir parlé de bien des choses, je lui dis « Monsieur, il me paraît que votre métier est bien pénible. »«
Pas tant que vous l'imaginez, » répondit-il.
« De la manière dont nous le faisons, ce n'est qu'un amusement. »«
Mais quoi ? N'avez-vous pas toujours la tête remplie des affaires d'autrui ? N'êtes-vous pas toujours occupé de choses qui ne sont point intéressantes ?
Vous avez raison, ces choses ne sont point intéressantes, car nous nous y intéressons si peu que rien, et cela même fait que le métier n'est pas si fatigant que vous dites. »
Quand je vis qu'il prenait la chose d'une manière si dégagée, je continuai et lui dis « Monsieur, je n'ai point vu votre cabinet. »
« Je le crois, car je n'en ai point. Quand je pris cette charge, j'eus besoin d'argent pour la payer. Je vendis ma bibliothèque, et le libraire qui l'a pris, d'un nombre prodigieux de volumes, ne me laissa que mon livre de raison. Ce n'est pas que je les regrette. Nous autres juges ne nous enflons point d'une vaine science. Qu'avons-nous à faire de tous ces volumes de loi? Presque tous les cas sont hypothétiques et sortent de la règle générale. »
« Mais ne serait-ce pas, monsieur, lui dis-je, parce que vous les en faites sortir ? Car enfin, pourquoi chez tous les peuples du monde y aurait-il des lois si elles n'avaient pas leur application ? Et comment peut-on les appliquer si on ne les sait pas ?»«
Si vous connaissiez le palais, reprit le magistrat, vous ne parleriez pas comme vous faites. Nous avons des livres vivants qui sont les avocats. Ils travaillent pour nous et se chargent de nous instruire. »
Et ne se charge-t-il pas aussi quelquefois de vous tromper ? Lui répartis-je. Vous ne feriez donc pas mal de vous garantir de leurs embûches. Ils ont des armes avec lesquelles ils attaquent votre équité. Il serait bon vous en eussiez aussi pour la défendre, et que vous n'allassiez pas vous mettre dans la mêlée, habillés à la légère, parmi des gens cuirassés jusque aux dents. »
De Paris, le 13 de la lune de Chaban, 1714. Lettre 69. Usbek à Redi, à Venise. « Tu ne te serais jamais imaginé que je fusse devenu plus métaphysicien que je ne l'étais. Cela est pourtant. » Et tu en seras convaincu quand tu auras essuyé ce débordement de ma philosophie. Les philosophes les plus sensés, qui ont réfléchi sur la nature de Dieu, ont dit qu'il était un être souverainement parfait. Mais ils ont extrêmement abusé de cette idée. Ils ont fait une énumération de toutes les perfections différentes que l'homme est capable d'avoir et d'imaginer, et en ont chargé l'idée de la divinité, sans songer que souvent ces attributs s'entrempêchent et qu'ils ne peuvent subsister dans un même sujet sans se détruire. Les poètes d'Occident disent qu'un peintre, ayant voulu faire le portrait de la déesse de la beauté, assembla les plus belles grecques et prit de chacune ce qu'elle avait de plus agréable, dont il fit un tout pour ressembler à la plus belle de toutes les déesses. Si un homme en avait conclu qu'elle était blonde et brune, qu'elle avait les yeux noirs et bleus, qu'elle était douce et fière, il aurait passé pour ridicule. Souvent Dieu manque d'une perfection qui pourrait lui donner une grande imperfection. Mais il n'est jamais limité que par lui-même, il est lui-même sa nécessité. Ainsi, quoique Dieu soit tout-puissant, il ne peut pas violer ses promesses ni tromper les hommes. Souvent même l'impuissance n'est pas dans lui, mais dans les choses relatives, et c'est la raison pourquoi il ne peut pas changer l'essence des choses. Ainsi, il n'y a pas sujet de s'étonner que quelques-uns de nos docteurs aient osé nier la prescience infinie de Dieu, sur ce fondement qu'elle est incompatible avec sa justice. Quelque hardie que soit cette idée, la métaphysique s'y prête merveilleusement. Selon ces principes, il n'est pas possible que Dieu prévoie les choses qui dépendent de la détermination des causes libres, parce que ce qui n'est point arrivé n'est point, et par conséquent ne peut être connu.
car le rien, qui n'a point de propriété, ne peut être aperçu. Dieu ne peut pas lire dans une volonté qui n'est point, et voir dans l'âme une chose qui n'existe point en elle. Car jusqu'à ce qu'elle se soit déterminée, cette action qui la détermine n'est point en elle. L'âme est l'ouvrière de sa détermination. Mais il y a des occasions où elle est tellement indéterminée qu'elle ne sait pas même de quel côté se déterminer. Souvent même, elle ne le fait que pour faire usage de sa liberté, de manière que Dieu ne peut voir cette détermination par avance, ni dans l'action de l'âme, ni dans l'action que les objets font sur elle. Comment Dieu pourrait-il prévoir les choses qui dépendent de la détermination des causes libres? Il ne pourrait les voir que de deux manières. Par conjecture, ce qui est contradictoire avec la prescience infinie. Ou bien il les verrait comme des effets nécessaires qui suivraient infailliblement d'une cause qui les produirait d'eux-mêmes. Ce qui est encore plus contradictoire. Car l'âme serait libre par la supposition, et dans le fait, elle ne le serait pas plus qu'une boule de billard n'est libre de se remuer lorsqu'elle est poussée par une autre. Ne crois pas pourtant que je veuille borner la science de Dieu. Comme il fait agir les créatures à sa fantaisie, il connaît tout ce qu'il veut connaître. Mais quoiqu'il puisse voir tout, il ne se sert pas toujours de cette faculté. Il laisse ordinairement à la créature la faculté d'agir ou de ne pas agir, pour lui laisser celle de mériter ou de démériter. C'est pour lors qu'il renonce au droit qu'il a d'agir sur elle et de la déterminer. Mais quand il veut savoir quelque chose, il le sait toujours, parce qu'il n'a qu'à vouloir qu'elle arrive comme il la voit, et déterminer les créatures conformément à sa volonté. C'est ainsi qu'il tire ce qui doit arriver du nombre des choses purement possibles, en fixant par ses décrets les déterminations futures des esprits, et les privant de la puissance qu'il leur a donnée d'agir ou de ne pas agir. Si l'on peut se servir d'une comparaison dans une chose qui est au-dessus des comparaisons. Un monarque ignore ce que son ambassadeur fera dans une affaire importante. S'il le veut savoir, il n'a qu'à lui ordonner de se comporter d'une telle manière, et il pourra assurer que la chose arrivera comme il la projette. L'Alcoran et les livres des Juifs s'élèvent sans cesse contre le dogme de la prescience absolue. Dieu y paraît partout ignorer la détermination future des esprits, et il semble que ce soit la première vérité que Moïse ait enseignée aux hommes. Dieu met Adam dans le paradis terrestre, à condition qu'il ne mangera point d'un certain fruit. Précepte absurde dans un être qui connaîtrait les déterminations futures des âmes. Car enfin, un tel être peut-il mettre des conditions à ses grâces sans les rendre dérisoires? C'est comme si un homme qui aurait su la prise de Bagdad disait à un autre « Je vous donne 100 tomans si Bagdad n'est pas pris ». Ne ferait-il pas là une bien mauvaise plaisanterie? Mon cher Reddy, pourquoi tant de philosophie? Dieu est si haut que nous n'apercevons pas même ses nuages. Nous ne le connaissons bien que dans ses préceptes. Il est immense, spirituel, infini. Que sa grandeur nous ramène à notre faiblesse. S'humilier toujours, c'est l'adorer toujours. De Paris, le dernier de la lune de Chaban, 1714. Lettre 70. Zélis à Usbek, à Paris. Soliman, que tu aimes, est désespéré d'un affront qu'il vient de recevoir. Un jeune étourdi, nommé Sufis, recherchait depuis 3 mois sa fille en mariage. Il paraissait content de la figure de la fille, sur le rapport et la peinture que lui en avaient fait les femmes qu'il avait vues dans son enfance. On était convenu de la dot, et tout s'était passé sans aucun incident. Hier, après les premières cérémonies, la fille sortit à cheval, accompagnée de son eunuque, et couverte, selon la coutume, depuis la tête jusqu'aux pieds. Mais dès qu'elle fut arrivée devant la maison de son mari prétendu, il lui fit fermer la porte, et il jura qu'il ne la recevrait jamais si on n'augmentait pas la dot. Les parents accoururent, de côté et d'autre, pour accommoder l'affaire, et après bien de la résistance, Soliman convint de faire un petit présent à son gendre. Les cérémonies du mariage s'accomplirent, et l'on conduisit la fille dans le lit avec assez de violence. Mais une heure après, cet étourdi se leva, furieux, lui coupa le visage en plusieurs endroits, soutenant qu'elle n'était pas vierge, et la renvoya à son père. On ne peut pas être plus frappé qu'il l'est de cette injure. Il y a des personnes qui soutiennent que cette fille est innocente. Les pères sont bien malheureux d'être exposés à de tels affronts. Si ma fille recevait un pareil traitement, je crois que j'en mourrais de douleur. Adieu. Du sérail de Fatmé, le 9 de la lune de Jemadi 1, 1714. Lettre 71. Usbek à Zélis. Je plains Soliman, d'autant plus que le mal est sans remède, et que son gendre n'a fait que se servir de la liberté de la loi. Je trouve cette loi bien dure, d'exposer ainsi l'honneur d'une famille aux caprices d'un fou. On a beau dire que l'on a des indices certains pour connaître la vérité, c'est une vieille erreur dont on est aujourd'hui revenu parmi nous. Et nos médecins donnent des raisons invincibles de l'incertitude de ces preuves. Il n'y a pas jusqu'aux chrétiens qui ne les regardent comme chimériques, quoiqu'elles soient clairement établies par leurs livres sacrés, et que leur ancien législateur en ait fait dépendre l'innocence ou la condamnation de toutes les filles. J'apprends avec plaisir le soin que tu te donnes de l'éducation de la tienne. Dieu veuille que son mari la trouve aussi belle et aussi pure que Fatima. Qu'elle ait 10 eunuques pour la garder. Qu'elle soit l'honneur et l'ornement du sérail où elle est destinée. Qu'elle n'ait sur sa tête que des lambris dorés et ne marche que sur des tapis superbes. Et pour comble de souhait, puissent mes yeux la voir dans toute sa gloire. De Paris, le 5 de la lune de Chalval, 1714. Lettre 72. Rika à Ibn à. Je me trouvais l'autre jour dans une compagnie où je vis un homme bien content de lui. Dans un quart d'heure, il décida 3 questions de morale, 4 problèmes historiques et 5 points de physique. Je n'ai jamais vu un décisionnaire si universel. Son esprit ne fut jamais suspendu par le moindre doute. On laissa les sciences, on parla des nouvelles du temps. Il décida sur les nouvelles du temps. Je voulus l'attraper, et je dis en moi-même, « Il faut que je me mette dans mon fort, je vais me réfugier dans mon pays. » Je lui parlai de la Perse, mais à peine lui eus-je dit 4 mots, qu'il me donna 2 démentis, fondés sur l'autorité de messieurs Tavernier et Chardin. « Ah, bon Dieu ! » dis-je en moi-même, « quel homme est-ce là ? Il connaîtra tout à l'heure les rues d'Ispahan mieux que moi. » Mon parti fut bientôt pris. Je me tus, je le laissai parler, et il décide encore. De Paris, le 8 de la lune de Zilkadé, 1715. Lettre 73. Rika à. J'ai ouï parler d'une espèce de tribunal qu'on appelle l'Académie française. Et il n'y en a point de moins respecté dans le monde, car on dit qu'aussitôt qu'il a décidé, le peuple casse ses arrêts et lui impose des lois qu'il est obligé de suivre. Il y a quelque temps que, pour fixer son autorité, il donna un code de ses jugements. Cet enfant de tant de pères était presque vieux quand il naquit, et quoiqu'il fût légitime, un bâtard qui avait déjà paru l'avait presque étouffé dans sa naissance. Ceux qui le composent n'ont d'autre fonction que de jaser sans cesse. L'éloge va se placer comme de lui-même dans leur babil éternel, et sitôt qu'ils sont initiés dans ces mystères, la fureur du panégyrique vient les saisir et ne les quitte plus. Ce corps a 40 têtes, toutes remplies de figures, de métaphores et d'antithèses. Tant de bouches ne parlent que par exclamation. Ses oreilles veulent toujours être frappées par la cadence et l'harmonie. Pour les yeux, il n'en est pas question. Il semble qu'il soit fait pour parler, et non pas pour voir. Il n'est point ferme sur ses pieds, car le temps qui est son fléau l'ébranle à tous les instants et détruit tout ce qu'il a fait. On a dit autrefois que ses mains étaient avides. Je ne t'en dirai rien, et je laisse décider cela à ceux qui le savent mieux que moi. Voilà des bizarreries que l'on ne voit point dans notre Perse. Nous n'avons point l'esprit porté à ces établissements singuliers et bizarres. Nous cherchons toujours la nature dans nos coutumes simples et nos manières naïves. De Paris, le 27 de la lune de Zilager, 1715. Lettre 74. Usbek Rika A. Il y a quelques jours qu'un homme de ma connaissance me dit « Je vous ai promis de vous produire dans les bonnes maisons de Paris. Je vous mène à présent chez un grand seigneur qui est un des hommes du royaume qui représente le mieux. » « Que veut dire cela, monsieur? Est-ce qu'il est plus poli, plus affable que les autres ?»« Non, me dit-il. » « Ah, j'entends. Il fait sentir à tous les instants la supériorité qu'il a sur tous ceux qui l'approchent. Si cela est, je n'ai que faire d'y aller. Je la lui passe tout entière, et je prends condamnation. » Il fallut pourtant marcher, et je vis un petit homme, si fier. Il prit une prise de tabac avec tant de hauteur, il se moucha si impitoyablement, il cracha avec tant de flegme, il caressa ses chiens d'une manière si offensante pour les hommes, que je ne pouvais me lasser de l'admirer. « Ah, bon Dieu ! » dis-je en moi-même. « Si, lorsque j'étais à la cour de Perse, je représentais ainsi, je représentais un grand sot. » Il aurait fallu, Rika, que nous eussions eu un bien mauvais naturel pour aller faire 100 petites insultes à des gens qui venaient tous les jours chez nous nous témoigner leur bienveillance. Ils savaient bien que nous étions au-dessus d'eux, et s'ils l'avaient ignoré, nos bienfaits le leur auraient appris chaque jour. N'ayant rien à faire pour nous faire respecter, nous faisions tout pour nous rendre aimables. Nous nous communiquions aux plus petits. Au milieu des grandeurs qui endurcissent toujours, ils nous trouvaient sensibles. Ils ne voyaient que notre cœur au-dessus d'eux. Nous descendions jusqu'à leurs besoins. Mais lorsqu'il fallait soutenir la majesté du prince dans les cérémonies publiques, lorsqu'il fallait faire respecter la nation aux étrangers, lorsque, enfin, dans les occasions périlleuses, il fallait animer les soldats, nous remontions 100 fois plus haut que nous n'étions descendus. Nous ramenions la fierté sur notre visage, et l'on trouvait quelquefois que nous représentions assez bien. De Paris, le 10 de la lune de Safar, 1715. Lettre 75. Usbek à Rédi, à Venise. Il faut que je te l'avoue. Je n'ai point remarqué chez les chrétiens cette persuasion vive de leur religion qui se trouve parmi les musulmans. Il y a bien loin chez eux de la profession à la croyance, de la croyance à la conviction, de la conviction à la pratique. La religion est moins un sujet de sanctification qu'un sujet de dispute qui appartient à tout le monde. Les gens de cour, les gens de guerre, les femmes même, s'élèvent contre les ecclésiastiques et leur demandent de leur prouver ce qu'ils ont résolu de ne pas croire. Ce n'est pas qu'ils se soient déterminés par raison et qu'ils aient pris la peine d'examiner la vérité ou la fausseté de cette religion qu'ils rejettent. Ce sont des rebelles qui ont senti le joug et l'ont secoué avant de l'avoir connu. Aussi ne sont-ils pas plus fermes dans leur incrédulité que dans leur foi. Ils vivent dans un flux et reflux qui les porte sans cesse de l'un à l'autre. Un d'eux me disait un jour « Je crois l'immortalité de l'âme par semestre. Mes opinions dépendent absolument de la constitution de mon corps. Selon que j'ai plus ou moins d'esprits animaux, que mon estomac digère bien ou mal, que l'air que je respire est subtil ou grossier, que les viandes dont je me nourris sont légères ou solides, je suis spinoziste, saucinien, catholique, impie ou dévot. Quand le médecin est auprès de mon lit, le confesseur me trouve à son avantage. Je sais bien empêcher la religion de m'affliger quand je me porte bien, mais je lui permets de me consoler quand je suis malade. Lorsque je n'ai plus rien à espérer d'un côté, la religion se présente et me gagne par ses promesses. Je veux bien m'y livrer et mourir du côté de l'espérance. Il y a longtemps que les princes chrétiens affranchirent tous les esclaves de leurs états, parce que, disaient-ils, le christianisme rend tous les hommes égaux. Il est vrai que cet acte de religion leur était très utile. Ils abaissaient par là les seigneurs, de la puissance desquels ils retiraient le bas peuple. Ils ont ensuite fait des enquêtes dans des pays où ils ont vu qu'il leur était avantageux d'avoir des esclaves. Ils ont permis d'en acheter et d'en vendre, oubliant ce principe de religion qui les touchait tant. Que veux-tu que je te dise? Vérité dans un temps, erreur dans un autre. Que ne faisons-nous comme les chrétiens? Nous sommes bien simples de refuser des établissements et des conquêtes faciles dans des climats heureux parce que l'eau n'y est pas assez pure pour nous laver selon les principes du Saint Alcoran. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Ali, son grand prophète, de ce que je professe une religion qui se fait préférer à tous les intérêts humains et qui est pure comme le ciel dont elle est descendue. De Paris, le 13 de la lune de Safar, 1715. Lettre 76. Usbek à son ami Ibn à Smyrne. Les lois sont furieuses en Europe contre ceux qui se tuent eux-mêmes. On les fait mourir, pour ainsi dire, une seconde fois. Ils sont traînés indignement par les rues. On les note d'infamie. On confisque leurs biens. Il me paraît, Ibn, que ces lois sont bien injustes. Quand je suis accablé de douleur, de misère, de mépris, pourquoi veut-on m'empêcher de mettre fin à mes peines et me priver cruellement d'un remède qui est entre mes mains? Pourquoi veut-on que je travaille pour une société dont je consens de n'être plus? Que je tienne, malgré moi, une convention qui s'est faite sans moi? La société est fondée sur un avantage mutuel, mais lorsqu'elle me devient onéreuse, qui m'empêche d'y renoncer? La vie m'a été donnée comme une faveur, je puis donc la rendre lorsqu'elle ne l'est plus. La cause cesse, l'effet doit donc cesser aussi. Le prince veut-il que je sois son sujet quand je ne retire point les avantages de la sujétion? Mes concitoyens peuvent-ils demander ce partage inique de leur utilité et de mon désespoir? Dieu, différent de tous les bienfaiteurs, veut-il me condamner à recevoir des grâces qui m'accablent? Je suis obligé de suivre les lois quand je vis sous les lois, mais quand je n'y vis plus, peuvent-elles me lier encore? Mais, dira-t-on, vous troublez l'ordre de la Providence. Dieu a uni votre âme avec votre corps et vous l'en séparez. Vous vous opposez donc à ses desseins et vous lui résistez. Que veut dire cela? Troublais-je l'ordre de la Providence lorsque je change les modifications de la matière et que je rends carré une boule que les premières lois du mouvement, c'est-à-dire les lois de la création et de la conservation, avaient faites ronde? Non, sans doute. Je ne fais qu'user du droit qui m'a été donné, et en ce sens, je puis troubler à ma fantaisie toute la nature, sans que l'on puisse dire que je m'oppose à la Providence. Lorsque mon âme sera séparée de mon corps, y aura-t-il moins d'ordre et moins d'arrangement dans l'univers? Croyez-vous que cette nouvelle combinaison soit moins parfaite et moins dépendante des lois générales? Que le monde y ait perdu quelque chose? Et que les ouvrages de Dieu soient moins grands, ou plutôt moins immenses? Pensez-vous que mon corps, devenu un épi de blé, un ver, un gazon, soit changé en un ouvrage de la nature moins digne d'elle? et que mon âme, dégagée de tout ce qu'elle avait de terrestre, soit devenue moins sublime ? Toutes ces idées, mon cher Ibben, n'ont d'autre source que notre orgueil. Nous ne sentons point notre petitesse, et malgré qu'on en ait, nous voulons être comptés dans l'univers, y figurer et y être un objet important. Nous nous imaginons que l'anéantissement d'un être, aussi parfait que nous, dégraderait toute la nature, et nous ne concevons pas qu'un homme de plus ou de moins dans le monde, que dis-je, tous les hommes ensemble, 100 millions de têtes comme la nôtre, ne sont qu'un atome subtil et délié, que Dieu n'aperçoit qu'à cause de l'immensité de ses connaissances. De Paris, le 15 de la lune de Safar, 1715. Lettre 77. Ibben à Usbek, à Paris. Mon cher Usbek, il me semble que pour un vrai musulman, les malheurs sont moins des châtiments que des menaces. Ce sont des jours bien précieux que ceux qui nous portent à expier les offenses. C'est le temps des prospérités qu'il faudrait abréger. Que servent toutes ces impatiences? Qu'à faire voir que nous voudrions être heureux indépendamment de celui qui donne les félicités parce qu'il est la félicité même? Si un être est composé de deux êtres, et que la nécessité de conserver l'union marque plus la soumission aux ordres du Créateur, on en a pu faire une loi religieuse. Si cette nécessité de conserver l'union est un meilleur garant des actions des hommes, on en a pu faire une loi civile. De Smyrne, le dernier jour de la lune de Safar, 1715. Lettre 78, Rika à Usbek, A. Je t'envoie la copie d'une lettre qu'un Français, qui est en Espagne, a écrite ici. Je crois que tu seras bien aise de la voir. Je parcours depuis 6 mois l'Espagne et le Portugal, et je vis parmi des peuples qui, méprisant tous les autres, font aux seuls Français l'honneur de les haïr. La gravité et le caractère brillant des deux nations. Elles se manifestent principalement de deux manières, par les lunettes et par la moustache. Les lunettes font voir démonstrativement que celui qui les porte est un homme consommé dans les sciences et enseveli dans de profondes lectures, à un tel point que sa vue en est affaiblie. Et tout nez qui en est orné ou chargé peut passer sans contredit pour le nez d'un savant. Quant à la moustache, elle est respectable par elle-même et indépendamment des conséquences. Quoiqu'on ne laisse pas quelquefois d'en tirer de grandes utilités pour le service du prince et l'honneur de la nation, comme le fit bien voir un fameux général portugais dans les Indes. Car, se trouvant avoir besoin d'argent, il se coupa une de ses moustaches et envoya demander aux habitants de Goa 20 000 pistoles sur ce gage. Elles lui furent prêtées d'abord, et dans la suite, il retira sa moustache avec honneur. On conçoit aisément que des peuples graves et flegmatiques comme ceux-là peuvent avoir de l'orgueil. Aussi en ont-ils. Ils le font ordinairement sur deux choses bien considérables. Ceux qui vivent dans le continent de l'Espagne et du Portugal se sentent le cœur extrêmement élevé lorsqu'ils sont ce qu'ils appellent de vieux chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas originaires de ceux à qui l'Inquisition a persuadé, dans ces derniers siècles, d'embrasser la religion chrétienne. Ceux qui sont dans les Indes ne sont pas moins flattés lorsqu'ils considèrent qu'ils ont le sublime mérite d'être, comme ils disent, hommes de chair blanche. Il n'y a jamais eu, dans le sérail du grand seigneur, de sultane si orgueilleuse de sa beauté, que le plus vieux et le plus vilain matin ne l'est de la blancheur olivâtre de son teint, lorsqu'il est dans une ville du Mexique, assis sur sa porte, les bras croisés. Un homme de cette conséquence, une créature si parfaite, ne travaillerait pas pour tous les trésors du monde, et ne se résoudrait jamais, par une ville et mécanique industrie, de compromettre l'honneur et la dignité de sa peau. Car il faut savoir que lorsqu'un homme a un certain mérite en Espagne, comme par exemple quand il peut ajouter aux qualités dont je viens de parler celle d'être le propriétaire d'une grande épée, ou d'avoir appris de son père l'art de faire jurer une discordante guitare. Il ne travaille plus. Son honneur s'intéresse au repos de ses membres. Celui qui reste assis 10 heures par jour obtient précisément la moitié plus de considération qu'un autre qui n'en reste que 5, parce que c'est sur les chaises que la noblesse s'acquiert. Mais, quoique ces invincibles ennemis du travail fassent parade d'une tranquillité philosophique, ils ne l'ont pourtant pas dans le cœur, car ils sont toujours amoureux. Ils sont les premiers hommes du monde pour mourir de langueur sur la fenêtre de leur maîtresse, et tout Espagnol qui n'est pas enrhumé ne saurait passer pour galant. Ils sont premièrement dévots et secondement jaloux. Ils se garderont bien d'exposer leurs femmes aux entreprises d'un soldat criblé de coups ou d'un magistrat décrépit. Mais ils les enfermeront avec un novice ferment qui baisse les yeux ou un robuste franciscain qui les élève. Ils permettent à leurs femmes de paraître avec le sein découvert, mais ils ne veulent pas qu'on leur voie le talon et qu'on les surprenne par le bout des pieds. On dit partout que les rigueurs de l'amour sont cruelles. Elles le sont encore plus pour les Espagnols. Les femmes les guérissent de leur peine, mais elles ne font que leur en faire changer, et il leur reste souvent un long et fâcheux souvenir d'une passion éteinte. Ils ont de petites politesses qui, en France, paraîtraient mal placées. Par exemple, un capitaine ne bat jamais son soldat sans lui en demander la permission, et l'Inquisition ne fait jamais brûler un juif sans lui faire ses excuses. Les Espagnols qu'on ne brûle pas paraissent si attachés à l'Inquisition qu'il y aurait de la mauvaise humeur de la leur ôter. Je voudrais seulement qu'on en établît une autre, non pas contre les hérétiques, mais contre les hérésiarques, qui attribuent à de petites pratiques monacales la même efficacité qu'aux 7 sacrements, qui adorent tout ce qu'ils vénèrent et qui sont si dévots qu'ils sont à peine chrétiens. Vous pouvez trouver de l'esprit et du bon sens chez les Espagnols, mais n'en cherchez point dans leurs livres. Voyez une de leurs bibliothèques, les romans d'un côté et les scolastiques de l'autre. Vous diriez que les parties en ont été faites, et le tout rassemblé par quelque ennemi secret de la raison humaine. Le seul de leurs livres qui soit bon est celui qui a fait voir le ridicule de tous les autres. Ils ont fait des découvertes immenses dans le Nouveau Monde, et ils ne connaissent pas encore leur propre continent. Il y a sur leur rivière tel pont qui n'a pas encore été découvert, et dans leurs montagnes des nations qui leur sont inconnues. Ils disent que le soleil se lève et se couche dans leur pays. Mais il faut dire aussi qu'en faisant sa course, il ne rencontre que des campagnes ruinées et des contrées désertes. Je ne serais pas fâché, Usbek, de voir une lettre écrite à Madrid par un Espagnol qui voyagerait en France. Je crois qu'il vengerait bien sa nation. Quel vaste champ pour un homme flegmatique et pensif! Je m'imagine qu'il commencerait ainsi la description de Paris. Il y a ici une maison où l'on met les fous. On croirait d'abord qu'elle est la plus grande de la ville. Non, le remède est bien petit pour le mal. Sans doute que les Français, extrêmement décriés chez leurs voisins, enferment quelques fous dans une maison pour persuader que ceux qui sont dehors ne le sont pas. Je laisse là mon espagnol. Adieu, mon cher Usbek. De Paris, le 17 de la lune de Safar, 1715. Lettre 79. Usbek à Redi, à Venise. La plupart des législateurs ont été des hommes bornés, que le hasard a mis à la tête des autres, et qui n'ont presque consulté que leurs préjugés et leurs fantaisies. Il semble qu'ils aient méconnu la grandeur et la dignité même de leur ouvrage. Ils se sont amusés à faire des institutions puériles avec lesquelles ils se sont, à la vérité, conformés aux petits esprits, mais décrédités auprès des gens de bon sens. Ils se sont jetés dans des détails inutiles. Ils ont donné dans les cas particuliers, ce qui marque un génie étroit qui ne voit les choses que par partie et n'embrasse rien d'une vue générale. Quelques-uns ont affecté de se servir d'une autre langue que la vulgaire. Chose absurde pour un faiseur de loi. Comment peut-on les observer si elles ne sont pas connues? Ils ont souvent aboli sans nécessité celles qu'ils ont trouvées établies, c'est-à-dire qu'ils ont jeté les peuples dans les désordres inséparables des changements. Il est vrai que par une bizarrerie qui vient plutôt de la nature que de l'esprit des hommes, il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il n'y faut toucher que d'une main tremblante. On y doit d'observer tant de solennité et apporter tant de précautions que le peuple en conduit naturellement que les lois sont bien saintes, puisqu'il faut tant de formalités pour les abroger. Souvent, ils les ont faites trop subtiles, et ont suivi des idées logiciennes plutôt que l'équité naturelle. Dans la suite, elles ont été trouvées trop dures, et par un esprit d'équité, on a cru devoir s'en écarter. Mais ce remède était un nouveau mal. Quelles que soient les lois, il faut toujours les suivre et les regarder comme la conscience publique, à laquelle celle des particuliers doit se conformer toujours. Il faut pourtant avouer que quelques-uns d'entre eux ont eu une attention qui marque beaucoup de sagesse. C'est qu'ils ont donné aux pères une grande autorité sur leurs enfants. Rien ne soulage plus les magistrats. Rien ne dégarnit plus les tribunaux. Rien, enfin, ne répand plus de tranquillité dans un État, où les mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois. C'est de toutes les puissances celle dont on abuse le moins. C'est la plus sacrée de toutes les magistratures. C'est la seule qui ne dépend pas des conventions et qui les a même précédées. On remarque que, dans les pays où l'on met dans les mains paternelles plus de récompenses et de punitions, les familles sont mieux réglées. Les pères sont l'image du Créateur de l'univers qui, quoi qu'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher encore par les motifs de l'espérance et de la crainte. Je ne finirai pas cette lettre sans te faire remarquer la bizarrerie de l'esprit des Français. On dit qu'ils ont retenu des lois romaines un nombre infini de choses inutiles, et même pis, et ils n'ont pas pris d'elles la puissance paternelle, qu'elles ont établie comme la première autorité légitime. De Paris, le 18 de la lune de Gemadi, 1719. Lettre 80, le grand eunuque noir à Usbek, à Paris. Hier, des Arméniens menèrent au sérail une jeune esclave de Circassie qu'ils voulaient vendre. Je la fis entrer dans les appartements secrets, je la déshabillai, je l'examinai avec les regards d'un juge, et plus je l'examinais, plus je lui trouvais de grâce. Une pudeur virginale semblait vouloir les dérober à ma vue. Je vis tout ce qu'il lui en coûtait pour obéir. Elle rougissait de se voir nue, même devant moi, qui, exempt des passions qui peuvent alarmer la pudeur, suis inanimé sous l'empire de ce sexe, et qui, ministre de la modestie, dans les actions les plus libres, ne porte que de chastes regards et ne puis inspirer que l'innocence. Dès que je l'eus jugée digne de toi, je baissai les yeux. Je lui jetai un manteau d'écarlate, je lui mis au doigt un anneau d'or. Je me prosternai à ses pieds. Je l'adorai comme la reine de ton cœur. Je payai les Arméniens, je la dérobai à tous les yeux. Heureux Usbek! Tu possèdes plus de beauté que n'en enferment tous les palais d'Orient. Quel plaisir pour toi de trouver à ton retour tout ce que la Perse a de plus ravissant, et de voir dans ton sérail renaître les grâces, à mesure que le temps et la possession travaillent à les détruire. Du sérail de Fatmé, le premier de la lune de Rébia 1, 1715. Lettre 81, Usbek à Rédi, à Venise. Depuis que je suis en Europe, mon cher Rédi, j'ai vu bien des gouvernements. Ce n'est pas comme en Asie, où les règles de la politique se trouvent partout les mêmes. J'ai souvent recherché quel était le gouvernement le plus conforme à la raison. Il m'a semblé que le plus parfait est celui qui va à son but à moins de frais, de sorte que celui qui conduit les hommes de la manière qui convient le plus à leur penchant et à leur inclination est le plus parfait. Si, dans un gouvernement doux, le peuple est aussi soumis que dans un gouvernement sévère, le premier est préférable, puisqu'il est plus conforme à la raison et que la sévérité est un motif étranger. Compte, mon cher Rédi, que dans un État, les peines plus ou moins cruelles ne font pas que l'on obéisse plus aux lois. Dans les pays où les châtiments sont modérés, on les craint comme dans ceux où ils sont tyranniques et affreux. Soit que le gouvernement soit doux, soit qu'il soit cruel, on punit toujours par degrés. On inflige un châtiment plus ou moins grand à un crime plus ou moins grand. L'imagination se plie d'elle-même aux mœurs du pays où l'on est. 8 jours de prison ou une légère amende frappent autant l'esprit d'un Européen, nourri dans un pays de douceur, que la perte d'un bras intimide un Asiatique. Ils attachent un certain degré de crainte à un certain degré de peine, et chacun le partage à sa façon. Le désespoir de l'infamie vient désoler un Français condamné à une peine qui n'ôterait pas un quart d'heure de sommeil à un Turc. D'ailleurs, je ne vois pas que la police, la justice et l'équité soient mieux observées en Turquie, en Perse, chez le Mogol, que dans les républiques de Hollande, de Venise et dans l'Angleterre même. Je ne vois pas qu'on y commette moins de crimes et que les hommes, intimidés par la grandeur des châtiments, y soient plus soumis aux lois. Je remarque, au contraire, une source d'injustice et de vexation au milieu de ces mêmes États. Je trouve même le prince, qui est la loi même, moins maître que partout ailleurs. Je vois que dans ces moments rigoureux, il y a toujours des mouvements tumultueux où personne n'est le chef, et que, quand une fois l'autorité violente est méprisée, il n'en reste plus assez à personne pour la faire revenir. Que le désespoir même de l'impunité confirme le désordre et le rend plus grand. Que dans ces États, il ne se forme point de petites révoltes et qu'il n'y a jamais d'intervalle entre le murmure et la sédition. Qu'il ne faut point que les grands événements y soient préparés par de grandes causes. Au contraire, le moindre accident produit une grande révolution, souvent aussi imprévue de ceux qui la font que de ceux qui la souffrent. Lorsque Osman, empereur des Turcs, fut déposé, aucun de ceux qui commirent cet attentat ne songeait à le commettre. Ils demandaient seulement en suppliant qu'on leur fît justice sur quelques griefs. Une voix qu'on n'a jamais connue sortit de la foule par hasard, le nom de Mustapha fut prononcé, et soudain Mustapha fut empereur. De Paris, le 2 de la lune de Rébia 1, 1715. Lettre 82. Nargum, envoyé de Perse en Moscovie, à Usbek, à Paris. De toutes les nations du monde, mon cher Usbek, il n'y en a pas qui ait surpassé celle des Tartares par la gloire ou par la grandeur des conquêtes. Ce peuple est le vrai dominateur de l'univers. Tous les autres semblent être faits pour le servir. Il est également le fondateur et le destructeur des empires. Dans tous les temps, il a donné sur la terre des marques de sa puissance. Dans tous les âges, il a été le fléau des nations. Les Tartares ont conquis 2 fois la Chine, et ils la tiennent encore sous leur obéissance. Ils dominent sur les vastes pays qui forment l'empire du Mogol. Maître de la Perse, Ils sont assis sur le trône de Cyrus et de Gustaspe. Ils ont soumis la Moscovie. Sous le nom de Turcs, ils ont fait des conquêtes immenses dans l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et ils dominent sur ces trois parties de l'univers. Et pour parler de temps plus reculé, c'est d'eux que sont sortis quelques-uns des peuples qui ont renversé l'Empire romain. Qu'est-ce que les conquêtes d'Alexandre en comparaison de celles de Gengis Khan? Il n'a manqué à cette victorieuse nation que des historiens pour célébrer la mémoire de ses merveilles. Que d'actions immortelles ont été ensevelies dans l'oubli! Que d'empires par eux fondés dont nous ignorons l'origine! Cette belliqueuse nation, uniquement occupée de sa gloire présente, sûre de vaincre dans tous les temps, ne songeait point à se signaler dans l'avenir par la mémoire de ses conquêtes passées. De Moscou, le 4 de la lune de Rébia, 1715. Lettre 83. Rika à Ibn, à Smyrne. Quoique les Français parlent beaucoup, il y a cependant parmi eux une espèce de dervis taciturne qu'on appelle chartreux. On dit qu'il se coupe la langue en entrant dans le couvent, et on souhaiterait fort que tous les autres dervis se retranchassent d'eux-mêmes tout ce que leur profession leur rend inutile. À propos de gens taciturnes, il y en a de bien plus singuliers que ceux-là, et qui ont un talent bien extraordinaire. Ce sont ceux qui savent parler sans rien dire, et qui amusent une conversation pendant 2 heures de temps, sans qu'il soit possible de les déceler, d'être leur plagiaire, ni de retenir un mot de ce qu'ils ont dit. Ces sortes de gens sont adorés des femmes, mais ils ne le sont pas tant que d'autres, qui ont reçu de la nature l'aimable talent de sourire à propos, c'est-à-dire à chaque instant, et qui portent la grâce d'une joyeuse approbation sur tout ce qu'elles disent. Mais ils sont au comble de l'esprit lorsqu'ils savent entendre finesse à tout et trouver 1000 petits traits ingénieux dans les choses les plus communes. J'en connais d'autres qui se sont bien trouvés d'introduire dans les conversations des choses inanimées et d'y faire parler leur habit doré, leur perruque blonde, leur tabatière, leur canne et leurs gants. Il est bon de commencer de la rue à se faire écouter par le bruit du carrosse et du marteau qui frappent rudement la porte. Cet avant-propos prévient pour le reste du discours, et quand l'exorde est beau, il rend supportable toutes les sottises qui viennent ensuite, mais qui, par bonheur, arrivent trop tard. Je te promets que ces petits talents, dont on ne fait aucun cas chez nous, servent bien ici ceux qui sont assez heureux pour les avoir, et qu'un homme de bon sens ne brille guère devant eux. De Paris, le 6 de la lune de Rébia, 2, 1715. Lettre 84. Usbek à Rédi, à Venise. S'il y a un Dieu, mon cher Rédi, il faut nécessairement qu'il soit juste, car s'il ne l'était pas, il serait le plus mauvais et le plus imparfait de tous les êtres. La justice est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux choses. Ce rapport est toujours le même, quelque être qui le considère, soit que ce soit Dieu, soit que ce soit un ange, ou enfin que ce soit un homme. Il est vrai que les hommes ne voient pas toujours ces rapports. Souvent même, lorsqu'ils les voient, ils s'en éloignent. Et leur intérêt est toujours ce qu'ils voient le mieux. La justice élève sa voix, mais elle a peine à se faire entendre dans le tumulte des passions. Les hommes peuvent faire des injustices parce qu'ils ont intérêt de les commettre et qu'ils préfèrent leur propre satisfaction à celle des autres. C'est toujours par un retour sur eux-mêmes qu'ils agissent. Nul n'est mauvais gratuitement. Il faut qu'il y ait une raison qui détermine. Et cette raison est toujours une raison d'intérêt. Mais il n'est pas possible que Dieu fasse jamais rien d'injuste. Dès qu'on suppose qu'il voit la justice, il faut nécessairement qu'il la suive, car, comme il n'a besoin de rien et qu'il se suffit à lui-même, il serait le plus méchant de tous les êtres, puisqu'il le serait sans intérêt. Ainsi, quand il n'y aurait pas de Dieu, nous devrions toujours aimer la justice, c'est-à-dire faire nos efforts pour ressembler à cet être dont nous avons une si belle idée, et qui, s'il existait, serait nécessairement juste. Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrions pas l'être de celui de l'équité. Voilà, Reddy, ce qui m'a fait penser que la justice est éternelle et ne dépend point des conventions humaines. Et quand elle en dépendrait, ce serait une vérité terrible qu'il faudrait se dérober à soi-même. Nous sommes entourés d'hommes plus forts que nous. Ils peuvent nous nuire de mille manières différentes. Les trois quarts du temps, ils peuvent le faire impunément. Quel repos pour nous de savoir qu'il y a dans le cœur de ces hommes un principe intérieur qui combat en notre faveur et nous met à couvert de leurs entreprises. Sans cela, nous devrions être dans une frayeur continuelle. Nous passerions devant les hommes comme devant les lions, et nous ne serions jamais assurés un moment de notre bien, de notre honneur et de notre vie. Toutes ces pensées m'animent contre ces docteurs qui représentent Dieu comme un être qui fait un exercice tyrannique de sa puissance, qui le font agir d'une manière dont nous ne voudrions pas agir nous-mêmes, de peur de l'offenser, qui le charge de toutes les imperfections qu'il punit en nous, et dans leurs opinions contradictoires, le représente tantôt comme un être mauvais, tantôt comme un être qui hait le mal et le punit. Quand un homme s'examine, quelle satisfaction pour lui de trouver qu'il a le cœur juste. Ce plaisir, tout sévère qu'il est, doit le ravir. Il voit son être autant au-dessus de ceux qui ne l'ont pas qu'il se voit au-dessus des tigres et des ours. Oui, Reddy, si j'étais sûr de suivre toujours inviolablement cette équité que j'ai devant les yeux, je me croirais le premier des hommes. De Paris, le premier de la lune de Gemadi I, 1715. Lettre 85. Rika A. Je fus hier aux Invalides. J'aimerais autant avoir fait cet établissement, si j'étais prince, que d'avoir gagné trois batailles. On y trouve partout la main d'un grand monarque. Je crois que c'est le lieu le plus respectable de la terre. Quel spectacle de voir rassembler dans un même lieu toutes ces victimes de la patrie, qui ne respirent que pour la défendre, et qui, se sentant le même cœur, et non pas la même force, ne se plaignent que de l'impuissance où elles sont de se sacrifier encore pour elles. Quoi de plus admirable que de voir ces guerriers débiles, dans cette retraite, observer une discipline aussi exacte que s'ils y étaient contraints par la présence d'un ennemi, chercher leur dernière satisfaction dans cette image de la guerre, et partager leur cœur et leur esprit entre les devoirs de la religion et ceux de l'art militaire. Je voudrais que les noms de ceux qui meurent pour la patrie fussent conservés dans les temples et écrits dans des registres qui fussent comme la source de la gloire et de la noblesse. De Paris, le 15 de la lune de Gemadi I, 1715. Lettre 86. Usbek à Mirza à Ispahan. Tu sais, Mirza, que quelques ministres de Shah Soliman avaient formé le dessein d'obliger tous les Arméniens de Perse de quitter le royaume ou de se faire mahométan, dans la pensée que notre empire serait toujours pollué, tandis qu'il garderait dans son sein ses infidèles. C'était fait de la grandeur persane, si dans cette occasion l'aveugle dévotion avait été écoutée. On ne sait comment la chose manqua. Ni ceux qui firent la proposition, ni ceux qui la rejetèrent n'en connurent les conséquences. Le hasard fit l'office de la raison et de la politique, et sauva l'empire d'un péril plus grand que celui qu'il aurait pu courir de la perte d'une bataille et de la prise de deux villes. En proscrivant les Arméniens, on pensa détruire en un seul jour tous les négociants et presque tous les artisans du royaume. Je suis sûr que le grand chat Abba aurait mieux aimé se faire couper les deux bras que de signer un ordre pareil, et qu'en envoyant aux Moghols et aux autres rois des Indes ses sujets les plus industrieux, il aurait cru leur donner la moitié de ses états. Les persécutions que nos mahométans zélés ont faites aux Guèbres les ont obligés de passer en foule dans les Indes et ont privé la Perse de cette nation si appliquée au labourage et qui seule, par son travail, était en état de vaincre la stérilité de nos terres. Il ne restait à la dévotion qu'un second coup à faire, c'était de ruiner l'industrie, moyennant quoi l'Empire tombait de lui-même et avec lui, par une suite nécessaire, cette même religion qu'on voulait rendre si florissante. S'il faut raisonner sans prévention, je ne sais pas, Mirza, s'il n'est pas bon que dans un État il y ait plusieurs religions. On remarque que ceux qui vivent dans des religions tolérées se rendent ordinairement plus utiles à leur patrie que ceux qui vivent dans la religion dominante, parce que, éloignés des honneurs, ne pouvant se distinguer que par leur opulence et leur richesse, ils sont portés à acquérir par leur travail et à embrasser les emplois de la société les plus pénibles. D'ailleurs, comme toutes les religions contiennent des préceptes utiles à la société, il est bon qu'elles soient observées avec zèle. Or, qu'y a-t-il de plus capable d'animer ce zèle que leur multiplicité? Ce sont des rivales qui ne se pardonnent rien. La jalousie descend jusqu'aux particuliers. Chacun se tient sur ses gardes et craint de faire des choses qui déshonoreraient son parti et l'exposeraient au mépris et aux censures impardonnables du parti contraire. Aussi a-t-on toujours remarqué qu'une secte nouvelle introduite dans un État était le moyen le plus sûr pour corriger tous les abus de l'ancienne. On a beau dire qu'il n'est pas de l'intérêt du prince de souffrir plusieurs religions dans son État. Quand toutes les sectes du monde viendraient s'y rassembler, cela ne lui porterait aucun préjudice, parce qu'il n'y en a aucune qui ne prescrive l'obéissance et ne prêche la soumission. J'avoue que les histoires sont remplies de guerres de religion, mais qu'on y prenne bien garde. Ce n'est point la multiplicité des religions qui a produit ces guerres, c'est l'esprit d'intolérance qui animait celle qui se croyait la dominante. C'est cet esprit de prosélytisme que les Juifs ont pris des Égyptiens et qui, d'eux, est passé comme une maladie épidémique et populaire aux Mahométans et aux chrétiens. C'est enfin cet esprit de vertige dont les progrès ne peuvent être regardés que comme une éclipse entière de la raison humaine. Car enfin, quand il n'y aurait pas de l'inhumanité à affliger la conscience des autres, quand il n'en résulterait aucun des mauvais effets qui en germent à milliers, il faudrait être fou pour s'en aviser. Celui qui veut me faire changer de religion ne le fait sans doute que parce qu'il ne changerait pas la sienne quand on voudrait l'y forcer. Il trouve donc étrange que je ne fasse pas une chose qu'il ne ferait pas lui-même, peut-être pour l'empire du monde. De Paris, le 26 de la lune de Gemadi I, 1715.